Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce samedi 22 janvier. Retour sur cette effroyable affaire, l'agression du cannibale des Pyrénées. Agression cette semaine en plein cœur de Toulouse. Enquête ouverte, l'homme est très dangereux. Comment a-t-il pu s'échapper de l'hôpital psychiatrique où il se trouvait ? Antoine Pellissolo, psychiatre, est avec nous dans un instant. Le pass vaccinal entrera donc dans nos vies lundi. Les restaurateurs ne veulent pas contrôler les clients. Retour sur les allègements annoncés par Jean Castex jeudi soir. Pourquoi si vite ? Je poserai la question à l'infectiologue Enrique Casalino. Notre pouvoir d'achat, l'essence qui frôle les 2 euros le litre, que peut faire, que doit faire le gouvernement ? Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes nous rejoindra. On parlera également des fruits et légumes. Ils ont bondi de 9%. Mais pourquoi ? Mais avant de développer ces titres, la tendance météo de votre samedi, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, le ciel s'éclaircit entre Lille, Paris, Brest et Limoges. Les éclaircies qui gagnent du terrain. La grisaille en revanche qui ne se morcelle pas entre les Ardennes et Strasbourg. Et le soleil qui brille généreusement du Bordelais aux Alpes-Maritimes et sur l'ensemble des reliefs.
Météo complète juste avant 13h. L'histoire fait froid dans le dos. Elle se passe mercredi dernier, en plein cœur de Toulouse. Une femme agressée, heureusement aidée par un voisin. L'agresseur était celui qu'on appelle le cannibale des Pyrénées. Il venait de s'échapper de l'hôpital psychiatrique de la ville. Bonjour Marion Gauthier.
Bonjour.
Il avait été interné après avoir tué un homme et mangé son cœur et sa langue.
Oui, en 2013, Jérémy Rimbaud a 26 ans. Il tue un agriculteur de 90 ans dans les Hautes-Pyrénées. Il a été déclaré irresponsable et interné. 9 ans plus tard, Florent Feuillère reste glacé par la scène dans laquelle il a fait irruption mercredi. Il entend alors des cris, voit un homme encapuchonné frapper sa voisine septuagénaire avec un bâton. Il intervient avec un fusil non chargé.
Elle disait sans cesse « Pourquoi il m'a frappé ? Pourquoi il m'a frappé ?» Le visage, la tête ensanglantée, une mare de sang autour d'elle. Je voulais pas qu'il parle, je voulais pas qu'il bouge. C'est sans cesse que je lui ai répété « Tu bouges pas, tu parles pas, tu restes à terre. » C'est pas ce qu'il a fait finalement. Quand il a presque saisi le canon de mon arme et on me dit « Vas-y, tire, achève-moi. » Et bon, c'est là où j'ai dû porter encore des coups pour le mettre au sol encore une fois.
Une enquête a été ouverte, le suspect a été mis à l'isolement. Il avait faussé compagnie à l'équipe de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand le jour de l'agression. Et c'est ce qui révolte Jean-Camille, une autre victime de Jérémy Rimbaud, frappé à coups de barre de fer en 2013 avant de réussir à s'enfuir, blessé gravement à l'épaule.
Je suis très 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 en colère parce que moi j'ai rien demandé à personne et je me retrouve handicapé et 8 ans après ça recommence. Sans vous mentir, j'ai dormi une heure. Et je suis sur le qui-vive. Voilà. Dès que j'entends un bruit, je regarde. La plaie ne se refermera jamais, ça c'est clair. Des scènes comme ça, on ne devrait pas le revoir. Voilà.
L'agriculteur estime que son agresseur n'aurait jamais dû quitter l'établissement de Cadillac dans lequel il a d'abord été interné. C'est une structure qui accueille en fait les patients jugés les plus dangereux. Jérémy Rimbaud souffre d'une forme grave de schizophrénie.
Le récit glaçant de Marion Gauthier, merci. Bonjour Antoine Pellissolo.
Bonjour.
Chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, c'est près de Paris. La question elle est là, hein. Comment a-t-il pu s'échapper aussi facilement ?
Alors aussi facilement, je ne sais pas, j'ai évidemment pas les détails de l'affaire, mais les services de psychiatrie partout en France ont une lourde charge en fait, à la fois soigner toutes les personnes qu'on reçoit, puisque ce sont uniquement des malades mentaux, et puis parfois d'assurer une forme de sécurisation pour certains d'entre eux. C'est une minorité, hein, la plupart des personnes malades ne sont pas dangereuses, mais pour une minorité d'entre elles, elles peuvent l'être. Et la plupart du temps, les services sont sécurisés à la hauteur des besoins, mais j'imagine qu'il y a pu y avoir un défaut de surveillance à un moment donné, notamment effectivement dans des services qui ne sont pas du même niveau que ceux par exemple dont vous parliez à Cadillac par exemple, qui est ce qu'on appelle une unité pour maladies difficiles, où là il y a une augmentation de la sécurité avec plus de personnel en général et des conditions matérielles plus adaptées à ce type de situation.
Antoine Pellissolo, arrêtons-nous un instant sur le profil du cannibale Jérémy Rimbaud, ancien soldat, interné donc depuis 2013. On n'en sait plus sur sa personnalité ?
Non, alors les éléments qu'on a eus, c'est une maladie mentale grave, hein, de type psychotique probablement, schizophrénie. Moi, j'aime pas parler de personne cannibale. Hein. Elle a eu, enfin, cet homme a eu une conduite de cannibalisme à un moment donné. Évidemment, c'est des événements exceptionnels qui a pu lui arriver une fois sans forcément que ça se répète évidemment par la suite. C'est avant tout une maladie mentale qui doit être soignée, qu'il faut évidemment sécuriser au maximum. Son histoire de vie, je la connais pas. Visiblement, il y a eu une décompensation autour de 20-25 ans, comme ça arrive assez souvent dans ces maladies, à la suite d'un stress majeur dans le cadre de son travail de militaire. Mais c'est pas pour autant que c'est la cause de ce type de comportement. C'est malheureusement la maladie mentale et ce qu'on appelle des bouffées délirantes à certains moments qui peuvent produire des comportements aberrants, parfois dangereux. Encore une fois, c'est extrêmement rare et même exceptionnel d'avoir ce type d'actes gravissimes, mais qui sont liés en fait à un dérèglement du contact avec la réalité, des idées délirantes, des hallucinations.
Docteur, les médecins de l'hôpital de Toulouse disent que la crise a accentué son mal-être et sa démence.
La crise sanitaire actuelle ?
Exactement.
Le contexte ? Oui, alors ça, c'est le cas pour beaucoup de gens. Évidemment pas pour ce niveau de gravité à chaque fois, heureusement. Mais ça, on sait bien qu'en ce moment, depuis 2 ans, on a une exacerbation des souffrances psychiques de tout type. Et malheureusement, avec un système de santé qui est, comme pour les autres spécialités, très, très, très tendu. Et la psychiatrie, malheureusement, n'est pas dotée des moyens nécessaires. Et donc là, typiquement, pour une situation comme ça, on a besoin de personnel en grand nombre pour accompagner ces personnes, en partie pour les surveiller, mais surtout pour les soigner. Et malheureusement, les services de psychiatrie, moi je crois que c'est important de le dire, on essaie de le répéter tout le temps, qu'on a besoin de personnel et malheureusement, on est souvent en sous-effectif et il n'y a pas assez de moyens pour prendre en charge ces situations. Celles-là, les plus graves, on essaie d'y parer au mieux, mais ça veut dire qu'on a moins de temps pour s'occuper aussi de l'ensemble de la population qui a des syndromes dépressifs, des troubles anxieux, un certain nombre de choses qui nécessitent aussi une présence très importante.
Le psychiatre Antoine Pellissolo sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci beaucoup.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
Le grand jour, c'est donc lundi. Il faudra alors sortir son pass vaccinal pour aller boire un verre en terrasse ou aller au cinéma. Un test PCR ne suffira donc plus. Les cafetiers et les restaurateurs pourront contrôler votre pass. Mais voilà, nombreux sont les professionnels qui ne veulent pas se transformer en policiers. Reportage à Lille, Maximilien Carlier.
Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre passe sanitaire s'il vous plaît monsieur ?
Cette petite phrase, Justin la répète plus d'une centaine de fois par jour. Ce directeur de restaurant n'a aucun problème pour vérifier les passes, non, mais hors de question de demander en plus une pièce d'identité.
On n'est pas flic en fait, au bout d'un moment, voilà, on joue le jeu du passe sanitaire, du passe vaccinal, on contrôle. S'il y a un doute, c'est pas à nous d'aller le vérifier non plus, quoi.
Car cela prend du temps selon lui, surtout lors des heures de pointe. Contrôler ça peut également rendre mal à l'aise. Émilie, restauratrice.
J'ai des clients qui viennent eux-mêmes avec des clients de leur entreprise. Si j'ai un doute, je vais demander la carte d'identité de ce client devant mon client habitué, ce qui peut générer des circonstances compliquées par la suite. La personne peut mal le prendre, par exemple. Ça jette un froid direct quand la personne rentre dans mon restaurant.
Et où est la notion de plaisir dans ces cas-là, insiste-t-elle. Pourquoi ne pas demander une photo sur l'application Tous Anti-Covid, se demande cette gérante. Ça réglerait une grande partie des problèmes. Villeneuve d'Ascq, Maximilien Carlier, Europe 1.
Bonjour Enrique Casalino.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue et directeur médical de l'APHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris. Plus de 400 000 cas positifs hier encore. C'est à peu près le même chiffre tous les jours. On entend plusieurs de vos collègues dire finalement les allègements annoncés par Jean Castex vont trop vite. Vous partagez cet avis ou pas ?
Moi, je comprends qu'il faut avoir une réactivité. La réussite aujourd'hui, c'est d'être réactif, d'être flexible et de oser effectivement prendre des décisions courageuses. Oui. Ça, on peut le partager. Mais au moment que le virus circule tellement, passer un message d'optimisme, passer un message qu'il y a un horizon positif, c'est intéressant. Il faudrait surtout pas que ce soit compris par la population comme nous pouvons baisser les bras, ouais. Nous pouvons nous désintéresser des mesures de prévention. Ça pourrait être extrêmement dangereux, vous voyez.
Ce sera quoi le plus de ce pass vaccinal par rapport au pass sanitaire ? Est-ce qu'il était finalement réellement nécessaire ?
Alors, je vous donne un sentiment personnel qui n'est pas uniquement scientifique. C'est le sentiment de quelqu'un qui a la responsabilité d'essayer de convaincre des patients de se faire vacciner et de gérer des équipes soignantes qui sont confrontées à une très forte difficulté. Ce qui me paraît indispensable, c'est quand même qu'il y ait une cohérence dans les mesures. Oui. Il y a 2 mois, ce pass sanitaire aurait été parfaitement crédible. Nous étions avec une vague en face de nous. Augmenter la puissance, ça paraissait raisonnable. Aujourd'hui, le discours jusqu'à aujourd'hui, c'est nous sommes en train de passer la vague, il y a plusieurs régions qui sont moins confrontées, et on a l'impression qu'on augmente la pression sur le vaccin. Alors que les tests restent un outil essentiel. Hein. Oui. On a l'impression qu'on commence à dire les tests n'ont plus aucun intérêt. Ce n'est pas vrai. Les tests restent un outil extrêmement important de surveillance épidémiologique.
Vous dites finalement que c'est le moyen d'aller se faire vacciner, de pousser les Français à aller se faire vacciner massivement.
Alors, si nous avions ce résultat, si dans les jours qui viennent, nous constatons que grâce à la mise en place du pass vaccinal, nous avons vacciné quasiment toutes les personnes qui aujourd'hui ne l'ont pas fait pour des multiples raisons. Hein. Ne pensez pas que c'est uniquement la résistance ou une absence d'envie. On dira, bon voilà, le pass, il a marché. Mais si nous constatons qu'il y a eu quoi, on a gagné sur les 9% de personnes non vaccinées, 1 ou 2 ou 3%.
Ce sera un coup d'épée dans l'eau.
Voilà, on dirait qu'il y a eu quand même une très forte pression. Et je vous rappelle quand même, et ça, on doit tous le partager, que les choses ne marchent que si les gens adhèrent, que si les gens ont envie de s'engager, que si les gens prennent conscience, chacun d'entre nous, vous, moi, nos proches et chacune des personnes qui nous écoutent, que nous sommes des acteurs de prévention et que c'est dans ce sens-là que nous devons nous engager. Discours-là, moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu.
L'infectiologue Enrique Casalino, invité d'Europe Midi Week-end. Merci à vous. Notez encore que la vente des autotests en grande surface sera possible jusqu'au 15 février, autorisation qui a donc été prolongée. Et puis la Guadeloupe est toujours secouée par des violences en marge des manifestations contre l'obligation vaccinale. La préfecture a décidé d'abaisser le couvre-feu à 18h à Pointe-à-Pitre jusqu'à demain. Enfin, pour être complet, le Paxlovid vient d'être autorisé par la Haute Autorité de Santé. Il s'agit d'une pilule contre les formes graves de Covid. Mais attention, Yasmina Katou, elle ne sera pas prescrite à n'importe qui. Hein.
Oui, le Paxlovid sera pris uniquement par les malades qui risqueraient de développer une forme grave, les personnes très âgées, immunodéprimées ou encore celles atteintes de maladies rares. Selon le laboratoire Pfizer, le médicament réduit de 85% la possibilité de se retrouver en soins critiques ou de mourir du Covid. Le traitement est sous forme de gélules, 3 par jour pendant 5 jours. Il est recommandé de le suivre dès que le diagnostic est posé et au maximum dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes. Comme pour une prescription classique, il suffira de se rendre chez son pharmacien muni d'une ordonnance du médecin. L'antiviral est contre-indiqué, notamment pour les personnes atteintes d'une insuffisance rénale ou hépatique. Les premières livraisons de pilules dans les pharmacies sont attendues la semaine prochaine. Au total, la France a réservé 500 000 doses pour 2022.
Et Yasmina Katou du service Société d'Europe 1. À suivre, l'essence très chère provoque un boom du GPL. Reportage à suivre. Que peut faire le gouvernement ? Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes sera avec nous. Les fruits et légumes flambent également. Mais pourquoi ? Et puis la politique avec un nouveau soutien pour Éric Zemmour et le sport, du tennis en Australie et du foot avec les matchs du jour en Ligue 1. Bon appétit. À tout de suite.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
1h moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Votre vie quotidienne avec, vous l'avez remarqué, le litre d'essence qui frôle par endroits les 2 euros. L'une des alternatives, c'est de passer au GPL. On assiste en ce moment à un véritable boom. Reportage, Charles Guyard.
Dans cette station-service de l'ouest de la France, sur quasiment toutes les pompes, la ligne indiquant le prix défile nettement plus vite que celle affichant le nombre de litres d'essence, sauf à la borne numéro 7, où Christophe vient de raccrocher le pistolet. Verdict.
Là, j'ai payé 16,63 € pour 20 litres.
Et vous roulez combien de kilomètres ?
Moi, je fais à peu près 400 kilomètres.
Dans sa petite citadine, ce Rennais a fait le plein en GPL, un carburant qu'il a choisi par souci économique.
Et encore, il a un tout petit peu augmenté, le GPL.
Certes, mais à moins de 90 centimes le litre, le GPL reste encore près de 2 fois moins cher que le gazole ou encore l'essence. Et dans les concessions, les clients sont de plus en plus demandeurs. Coraline Cornuaille, vendeuse chez Renault dans l'agglomération nantaise.
Oui, on demande du GPL. Alors qu'avant, non. C'est un budget, hein, d'acheter une voiture et surtout le carburant qu'il y a aussi à mettre derrière. Donc en fait, ils veulent limiter ça en achetant le GPL.
Mon collègue qui vend des Dacia, lui, ça devient quasiment la moitié de ses ventes aujourd'hui.
Et les arguments sont nombreux en faveur du GPL. D'un point de vue sécurité, d'abord, les risques d'explosion sont nuls. Et sur le plan économique, en plus d'un carburant bon marché, la carte grise est le plus souvent gratuite ou moins chère, au même titre que les véhicules électriques, en raison d'une empreinte carbone limitée. Nantes, Charles Guyer, Europe 1.
Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour.
Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Soyons concrets, le GPL, ça permet une économie de combien? Et attention, il faut bien le dire, ça ne concerne que les véhicules essence. Hein.
Oui, alors tout est dit. Hein. C'est vraiment uniquement les véhicules essence. C'est pas du tout, on ne peut pas adapter un véhicule diesel au GPL. Alors le GPL, c'est l'une des deux énergies tendances actuellement avec l'éthanol. Ouais. Sur le GPL, vous allez réaliser environ 40% d'économie. Mmh. Sur l'éthanol, vous allez réaliser 50% d'économie. Le budget pour convertir votre véhicule essence au GPL est beaucoup plus élevé que pour l'éthanol. Il faut compter environ 3 à 4 fois plus. Ouais. Donc pour un véhicule d'occasion, il vaut mieux basculer sur l'éthanol si on souhaite véritablement faire une économie durable et rapide, puisque le prix de la conversion est beaucoup plus faible. En revanche, le GPL est une super solution, notamment pour les véhicules neufs qui existent aussi maintenant en GPL et qui permettent à cette fois-ci d'avoir un véhicule en alternative à l'électrique, hein, qui est beaucoup moins polluant et qui permet surtout de pouvoir rouler dans les zones à faible émission. Oui. Et dans ces considérations-là, vous n'avez pas à le convertir, donc le coût de la conversion, ben vous ne l'avez pas. Donc pour un véhicule neuf, ça peut être très intéressant.
Pierre Chasseret, on sait que le baril de pétrole donc est cher en ce moment, mais il y a aussi bien sûr les taxes, elles rapportent 40 milliards à l'État. Il n'y a pas moyen d'agir là-dessus?
Ben si, il faut d'ailleurs. Hein. Ça va devenir essentiel. De toute façon, vous avez sans doute remarqué que depuis quelques jours, le son de cloche de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ou de Bruno Le Maire, n'est plus tout à fait le même sur les taxes. Eux qui fermaient la porte, on a l'impression que les automobilistes ont réussi à mettre le pied dans la porte. Donc je pense que le président Macron ne pourra pas laisser cette situation s'enliser, avec des tarifs qui vont encore augmenter, sans agir. Il n'y a pas 50 solutions.
Ça
la seule
quoi,
solution, c'est la baisse des taxes.
Mais
les chèques carburant, c'est n'importe quoi. Le chèque carburant, c'est la preuve, en fait, que vous avez un système fiscal qui ne fonctionne pas, puisque vous êtes obligé de le compenser par un autre système fiscal de remise de chèques. Donc, c'est très complexe. Ce qu'il faut, c'est un système qui permette d'avoir un prix acceptable. On ne l'a pas trouvé encore, parce que le système de la TVA, qui est un pourcentage, vient prendre encore plus d'argent au moment où le carburant est le plus fort. Je m'explique. Plus le prix du baril est élevé, plus le pourcentage de TVA, lui, sera fort. Donc, en ce moment, l'État n'a jamais gagné autant d'argent sur les taxes que depuis que le carburant est plus cher. C'est juste anormal.
Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Merci à vous. Merci beaucoup.
Allez, bonne.
L'inflation qui touche également les fruits et légumes. Selon l'association de consommateurs Famille Rurale, les prix ont bondi de 9% depuis 2019. Et Thibault Hu, vous avez arpenté les marchés ce matin et vous l'avez vous-même constaté.
Oui, et les clients que j'ai pu croiser ce matin sont unanimes. Les prix ont monté, ça se sent. Yannick vient au marché toutes les semaines et quand il fait les comptes, son panier coûte plus cher qu'avant.
Au marché, là, je viens d'acheter pour 33 euros de fruits, c'était pas le prix que je payais il y a 2 ans. Pour l'instant, je peux encore me permettre d'amortir à peu près cette hausse, mais il va falloir que je commence même moi à faire gaffe à ce que j'achète et faire attention au prix des légumes, et des fruits surtout.
Alors faire attention pour certains, mais pour d'autres plus modestes comme Michel, c'est déjà plus compliqué.
Ah oui, ça pèse, c'est sûr. Hein. Moi, je suis retraité, donc ça, c'est un problème. Hein. J'ai moins de pouvoir d'achat. Je fais comme je peux. Hein. J'achète un peu moins ou bien j'achète des choses meilleur marché.
Et ces prix ont augmenté progressivement, notamment avec la crise sanitaire. C'est ce qu'explique Daniel Sauvêtre, secrétaire général de l'interprofession des fruits et légumes frais.
Avec le Covid, les consommateurs ont beaucoup plus passé de temps à la maison, à cuisiner, ont acheté des fruits et légumes frais. Comme il y avait une certaine difficulté à la production, à trouver de la main-d'œuvre, on a en effet constaté une hausse de prix. En 2021, il y a eu un gel assez conséquent au printemps qui a touché quelques fruits, l'abricot, la poire principalement.
Et conséquence de la hausse, des rayons de fruits et légumes beaucoup moins fréquentés en 2022. Par exemple, les ventes d'endives, de poireaux et de carottes ont baissé de 20 à 30% selon l'Interfel, avec des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers du surgelé ou des plats préparés.
Constat et explication signé Thibault Hu. Merci.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
La politique à présent avec un meeting à Cannes à 18h30. Meeting d'Éric Zemmour, le député européen Rassemblement National Gilbert Collard vient d'annoncer qu'il le rejoignait. Victor Chabert, vous êtes à Cannes pour Europe 1. En quoi c'est une importante prise de guerre pour Éric Zemmour ?
Eh bien Thierry, car c'est une figure du Rassemblement National. Gilbert Collard était un des eurodéputés RN les plus médiatiques et comme me le confiait l'entourage d'Éric Zemmour, c'est quelqu'un de très populaire, dans le Sud notamment, capable de pouvoir faire basculer de nouvelles personnalités. Un cadre local du RN me disait qu'il s'inquiétait, lui, justement, de ce possible effet domino. Éric Zemmour s'est exprimé sur ce ralliement lors d'une très longue déambulation dans les rues de Cannes ce matin, qui s'est transformée en bain de foule.
Si vous voulez, l'arrivée de Gilbert Collard, qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est un ami qui nous rejoint, après Guillaume, après Jérôme, après d'autres, après Laurence Trochu, après Jean-Frédéric Poisson. C'est d'abord une campagne d'amitié, de camaraderie, d'abord. Et puis ensuite, c'est un symbole politique parce que vous voyez bien que tous ces gens que j'ai cités viennent de familles politiques différentes, mais qu'en vérité, elles aspirent depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans à se rassembler.
L'union des droites, c'est la stratégie que vise Éric Zemmour et c'est tout un symbole s'il a choisi de se déplacer ici en PACA où il y a eu des unions dans les années 80 entre la droite et le FN. Ce soir, il tient un meeting à 18h30 à Cannes. Se succéderont au pupitre Guillaume Pelletier, ex-républicain, Jérôme Rivière, ex-RN ou encore Philippe de Villiers.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1 à Cannes. On programme également cet après-midi le meeting d'Anne Hidalgo, gros meeting à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Un millier de personnes sont attendues sur place à 14h. Et puis cette toute dernière minute, les centristes viennent d'investir Valérie Pécresse comme leur candidate pour la présidentielle. 12h53, les sports. À présent, on va commencer avec le tennis et l'Open d'Australie, troisième tour. On fait le bilan pour les Français avec vous, Cyril de la Morinerie. Bilan contrasté entre la joie d'Alizé Cornet et la peine de Benoît Paire.
Oui, 13 ans après avoir disputé son premier huitième de finale à l'Open d'Australie, Alizé Cornet est de retour. C'est ce que la Française radieuse a expliqué au public, totalement conquis par sa performance. Car ce fut un vrai combat dans la chaleur de Melbourne face à la Slovène Tamara Zidancek. Après avoir perdu le premier set 6-4, la Niçoise a remporté les deux suivants 6-4, 6-2. Alizé Cornet s'est offert un beau cadeau en ce jour si particulier pour elle. Écoutez ce qu'elle a confié au public australien.
Je suis super heureuse. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui.
Tout le monde a chanté pour Alizé Cornet qui fête, vous l'avez compris, ses 32 ans aujourd'hui. La Française affrontera lundi la Roumaine, ancienne numéro 1 mondiale, Simona Halep, en huitième de finale, est en train de se qualifier pour la première fois en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Déception en revanche pour Benoît Paire. Le Français a été éliminé au troisième tour par le Grec Tsitsipas en quatre manches. Deux Français et une Française disputeront les huitièmes de finale à Melbourne, puisqu'en plus du duel Cornet-Halep, Gaël Monfils sera opposé au Serbe Kecmanovic. Enfin, choc en vue entre Adrian Manarino et le légendaire Rafael Nadal, vainqueur de l'Open d'Australie en 2009.
Cyril de la Morinerie, le football, le gros match du jour, c'est ce soir, hein, Lens-Marseille. Jean-François Pérez, on se souvient qu'à l'aller, Lens avait gagné au Vélodrome et c'était un match spectaculaire.
Oui, on peut même parler de tournant de la saison. Les Lensois s'étaient imposés 3-2. Ils avaient affirmé ce soir-là leur statut de prétendant à une place européenne. Quant à l'OM, la remise en question fut radicale. La machine offensive estivale s'est transformée en coffre-fort hivernal. Cela n'a pas échappé à l'entraîneur nordiste, Franck Haise.
C'est la meilleure défense de France, qui n'a pas encaissé de but à l'extérieur depuis un bon moment. Une équipe très très solide, voilà. Et avec des joueurs d'exception en plus. Donc c'est assez logique qu'il soit là-haut.
Emmené par l'étincelant Seco Fofana, le RC Lens adore les gros matchs. Monaco, Rennes, Lille ont été battus. Le PSG accroché. Le défenseur Jonathan Gradit attend cette soirée marseillaise avec beaucoup d'appétit.
Ça va être, un super match parce que c'est une belle équipe et on fera tout pour remporter ce match. Donc on a hâte d'y être.
Seul bémol, les restrictions sanitaires. 5000 spectateurs ce soir seulement au stade Félix Bollaert. Et l'hymne lensois, les courants, qui résonnera sans doute un peu moins fort que d'habitude.
Voilà le chef des sports d'Europe, hein, Jean-François Pérez. Match à suivre en direct ce soir sur l'antenne, bien sûr. Et puis notez à 17h un Brest qui reçoit Lille. Puis en rugby, annulation du match Toulouse-Cardiff en raison des contaminations au Covid. La Coupe d'Europe est faussée. C'est ce que dit le président de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel. Dans une heure, clap. C'est votre magazine du cinéma, bien sûr. Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Thierry.
Laurie, on parle d'amour cette semaine. Hein.
Oui, alors il y a la sortie du film de Claude Lelouch, L'amour c'est mieux que la vie, mais aussi la nouvelle comédie de Christopher Thompson, Tendre et saignant. Alors c'est une façon différente de parler d'amour, mais il s'agit bien d'une comédie romantique sur fond de dindon marron. L'histoire est celle d'une rédactrice en chef d'un magazine de mode qui va voir sa vie chamboulée lorsqu'elle hérite de la boucherie de son père et fait la connaissance de celui qui la tient, le très sexy Martial, incarné par Arnaud Ducré.
Oh non, non, non.
Je leur dis quoi aux clients? Ton chat nous a laissé tomber, démerdez-vous.
La boucherie Fleury ne plante pas ses clients avant Noël.
Vous êtes journaliste de mode ou vous êtes bouchère?
On dîne avec des amis de Julia.
Tu veux pas que je vienne?
Pour toi, c'est des ploucs.
C'est comme ça que tu me vois?
Je te vois pas. Tu es comme ça. T'es toute stressée, tu goûtes pas, tu vis pas, tu sais plus d'où tu viens.
C'est vraiment une jolie comédie qui fonctionne à merveille, avec également au casting Géraldine Pellas, plus souvent vue dans des films d'auteur, qui apporte beaucoup de fraîcheur et de douceur au film. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui a proposé Arnaud Ducré comme partenaire au réalisateur. Alors au-delà de l'histoire d'amour, c'est un film sur le changement de vie et puis c'est un film aussi sur les petits artisans qui exercent leur métier de façon passionnée, les commerçants, la vie de quartier. Écoutez justement Arnaud Ducré nous en parler.
Cette comédie romantique avec ce fond de boucherie m'a immédiatement plu. Christopher m'avait aussi beaucoup vendu entre guillemets l'ambiance d'une boucherie qu'on a maintenant de quartier où on peut aussi manger. Et il m'avait mélangé ce melting pot de gens aussi, la petite grand-mère du quartier, le comédien qui vient, le commercial, le jeune couple, Bobo, et il a su retranscrire ça avec très, très, très joliment. Quoi.
Parfait, donc à voir. Laurie, au sommaire de clap.
Eh bien Thierry, cette semaine, nous sommes au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui fête ses 25 ans. Et donc, je proposerai une émission spéciale consacrée aux comédies. Je recevrai Édouard Baer, Kev Adams, oui, Mathilde Seigné ou encore José Garcia.
Un bon moment à ne pas rater donc. À tout à l'heure, Laurie. La météo, à présent, Valérie Darmon. Même configuration qu'hier côté ciel et côté température.
Et je commence par le ciel, Thierry. La France qui est toujours coupée en deux à l'horizontale, comme souvent, globalement au niveau de la Loire et des régions centres. Alors au nord, le temps est gris et très brumeux. Quelques éclaircies percent tout de même sur la pointe bretonne, en particulier du Morbihan au Pays de la Loire. La grisaille est plus épaisse dans le nord-est, avec de très faibles pluies au nord de la Lorraine et de l'Alsace. Et l'ambiance qui est très brumeuse encore sur le bassin parisien, la Beauce et surtout en région centre. Si vous habitez la moitié sud, vous restez au soleil aujourd'hui d'ailleurs comme demain. Et le vent faiblit entre le Massif central et le Golfe du Lion. Les températures restent stationnaires et hivernales, avec pas plus de 4 à 7 degrés de Strasbourg à Brest et dans l'après-midi. Aussi, annoncé par Météo France, 3 à Épinal, 4 à Lons-le-Saunier, 5 à Montluçon et Chambéry, 6 à Lyon, Metz, Angers et Agen, 7 à Gap et Lille, 8 degrés en région parisienne, 9 à Saint-Girons, 11 à Nîmes et enfin 13 à Nice et Bastia.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet. Isabelle qui reçoit l'actrice Sandrine Bonner. A tout de suite pour les toutes dernières informations.